Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
François, la semaine dernière, nous étions dans une espèce de rétrospective, récapitulatif de la dernière saison, mais oui. Cette fois-ci, on plonge tête première, mesdames, messieurs, dans...
une nouvelle saison.
Nouvelle, véritable saison de Peut contenir des infos. Ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien. T'as passé une bonne semaine?
Oui, j'ai passé une bonne semaine. Et toi, Simon?
Une excellente semaine. On peut pas dire que Peut contenir des infos n'est pas une émission où il y a de la texture, de la substance. Bien au contraire, hein. Il me semble que c'est riche. Et...
oui.
Si je comparais notre émission, par exemple, à une pièce de viande, je dirais que c'est un bon gros steak bien persillé.
Un gros beefsteak, oui, absolument. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un T-bone.
Un gros T-bone.
Oui, avec un gros filet sur le bord, là.
OK. Mmh. Parler de viande plus tard dans l'émission.
Oh!
Aha!
Oh! Okay.
C'est pour ça que je voulais amener la substance, la texture, la viande,
d'accord.
Le bon goût de la viande. N'en déplaise aux gens, évidemment, qui sont végétariens.
Oui.
Mais
c'est ça.
J'aime encore ça.
Oui, moi aussi.
Puis,
j'en mange moins que j'en mangeais quand j'étais plus jeune. Oui? Oui, je mange moins de viande.
Ah ouais.
Mais j'aime autant ça que j'aimais ça.
Ouais, c'est sûr que rendu à un certain âge, à un moment donné, on slack un peu sur les gros burgers puis les trucs du genre, mais...
oui.
Ça fait toujours du bien par où ça passe, comme on dit.
C'est ça, exactement.
Tu sais, en été, griller une boulette de tofu, je trouve ça moins winner un peu que gros burger saignant.
Oui, je sais.
Mais c'est un avis très personnel.
Oui, absolument, oui.
Veux-tu commencer ou tu veux que je commence avec mon sujet?
Tu sais, quand tu reviens du médecin, là.
Ça fait un bout, là. Moi, j'ai pas des rendez-vous annuels, là.
OK. Mais quand tu revenais du médecin.
Oui, oui.
Non, mais t'as des flots.
Oui.
Tu sais, quand tu vas au médecin avec tes flots, puis le médecin va te donner une prescription.
Eh, hey, mes amis.
As-tu déjà essayé de décrypter une note de médecin?
C'est difficile.
Oui, c'est difficile. Puis moi, je me souviens que mon médecin m'avait donné une note, puis... bon, c'était pour des médicaments qu'il fallait que je prenne. Bon, alors je vais voir ma pharmacienne et je lui donne la note. Puis, tu sais, j'avais regardé la note. Puis, honnêtement,
c'est pas bon, capable.
Je pouvais pas lire ce que c'était.
Ouais.
Elle a fait comme, OK, donne-moi 2 minutes. C'est comme, OK, t'as compris ce qui est marqué là-dessus? Elle dit, oui. Elle dit, avec le temps, on vient qu'à décrypter l'écriture d'un médecin, mais c'est pas évident, là.
Pas sûr qu'ils comprennent tout le temps, par exemple. Pas certain qu'ils comprennent nécessairement tous les médecins.
Non, probablement pas.
Des fois, je soupçonne même que si c'est long avant d'avoir tes médicaments, c'est peut-être parce qu'ils vont se cacher dans le backstore.
Puis ils appellent.
Ils appellent pour savoir. Excusez, là, celle-là, je la comprends pas. Excusez, je suis pas capable de comprendre.
Mais ça doit faire partie de leur cours à l'université pour devenir pharmacien. Décrypter des notes de... Mais tout ça va devenir beaucoup plus simple bientôt.
Pour vrai?
Oui, grâce à Google.
Ah ben tiens.
Ben oui.
Ah, je l'attendais.
Google qui travaille sur un outil pour décrypter les notes de médecins qui sont plutôt difficiles à lire. Alors c'est bien, ils vont se servir, bien entendu... de l'intelligence artificielle pour le faire.
Ouais.
C'est un outil qui va être utilisé pour reconnaître du langage à travers les notes qui sont difficilement déchiffrables, notamment les noms de médicaments qui pourraient apparaître sur votre prescription. On est toujours à la phase de recherche, donc l'outil est pas encore accessible pour le public pour le moment, mais ça va le devenir.
OK. Ah oui.
Alors, on va pouvoir, nous, prendre notre note du médecin en arrivant chez nous, la passer dans le scanner.
Ouais.
Et puis, poink!
Je trouve ça intelligent parce que, ben des fois, t'arrives, t'as une prescription.
Oui.
OK, que le pharmacien comprenne, c'est pas pire, mais que toi, tu saches c'est quoi qu'on t'a fourgué comme médicament.
C'est ça, exactement.
C'est un peu élémentaire.
Puis tu sais, souvent, c'est pas la... Ils vont pas écrire le nom d'un médicament de grande marque.
C'est ça.
Ça va plutôt être le générique. Mais toi, le générique, là, ça te dit absolument zéro. Là.
Oui, puis ils ont des noms à coucher dehors de toute façon. Ça fait plus souvent qu'autrement, il te l'a dit, t'as pas tout à fait compris. T'es un peu gêné de lui demander de répéter. Ah ouais, OK, ah, bon, c'est correct, je vais aller au pharmacien puis je vais apporter
c'est
ça. Ah, ben c'est une bonne idée,
oui,
ça.
C'est une bonne idée que Google travaille là-dessus.
Ben merci Google. Des fois, il y a des affaires qui sont moins intelligentes, là, ou moins intéressantes. Ça arrive de temps en temps qu'ils nous échappent. Là. Mais quand ils nous arrivent avec des affaires comme ça, là, ben tant mieux.
Et toi, tu vas nous parler de...
Je vais rester un peu dans le domaine de l'Internet.
Oh,
tu sais, Google sont dans l'Internet.
Oui.
C'est peut-être une nouvelle qui va faire lever un sourcil à pas mal de parents qui vont dire
hein?
Mais selon un professeur de l'Université d'État du Michigan et son équipe avec laquelle il a travaillé, ça a l'air que les adolescents qui ne passent pas assez de temps sur Internet seraient en danger psychologique.
Ah,
tu as déjà entendu ça? Le gars s'appelle...
Explication, s'il vous plaît.
Ouais, le professeur Keith Hampton.
OK.
C'est qui ce gars-là, tu sais, pour dire que les enfants qui sont passés sur Internet sont en danger, pas de mort, là, mais...
Non.
Danger psychologique, là.
OK.
C'est un professeur du département des médias et de l'information au Collège des arts et des sciences de la communication à la Michigan State University.
OK, ouais.
Une bonne équipe de football, les autres, ça?
Oui.
OK.
Oui, les trolls.
Il est aussi directeur de la recherche universitaire.
OK.
Et eux autres, ils ont fait une revue qui a d'ailleurs été révisée par les pairs. Là, tu sais, quand tu fais des rapports scientifiques ou des études, c'est passé en revue par tes semblables, là, par tes collègues et tout ça. Qu'eux autres, ils disent ça a-tu du bon sens et tout ça.
Ouais.
Alors, Hampton et son équipe ont examiné l'estime de soi et les activités sociales des adolescents qui n'ont pas ou très peu accès à Internet à la maison.
OK, là, je commence à comprendre.
Hein? Alors, ils ont fait une comparaison de ces adolescents-là qui ont à peu près jamais été sur Internet, qui vont très peu souvent sur Internet, puis ils ont comparé ça avec des ados qui, eux autres, y vont soit, qui passent trop de temps sur Internet, ou encore, même, qui ont accès à Internet, mais dont les parents limitent l'accès à Internet.
Hein?
Et, écoute, ça a quand même été assez exhaustif comme échantillon.
Okay.
3258 ados.
Oh! Okay.
Alors, ça commence à faire un petit peu de monde.
Ben oui.
Et les conclusions sont assez étonnantes.
Mm-hmm.
Ouais.
J'imagine.
Évidemment, on s'entend que il y a quand même matière à s'inquiéter si votre adolescent est tout le temps sur Internet ou tout le temps devant les écrans.
Faut limiter, oui.
Hein? On se l'est fait dire quand même, d'ailleurs, par un docteur l'automne passé dans notre émission. Ça pouvait engendrer des problèmes quand on passe trop de temps devant l'écran.
C'est ça, hein? Faut limiter.
La sédentarité, on finit par trop manger et tout ça. Mais le professeur Hampton, lui, dit... OK, qu'on se préoccupe de ceux qui passent trop de temps devant l'écran, soit, mais qu'on ne se préoccupe pas suffisamment de ceux qui n'ont jamais accès à l'Internet et aux écrans, ça devrait être une préoccupation aussi. À tel point qu'il dit que c'est même dangereux pour leur santé mentale, ça a l'air.
Mais pour nous autres, c'est difficile à comprendre, Simon, parce qu'on vient, on est d'une génération où on n'avait pas d'Internet.
On n'avait pas Internet.
C'est ça. Fait que la seule façon que tu pouvais, tu sais, interagir, c'était avec tes amis, puis bon, ben, tu traversais la clôture, puis t'allais voir ton voisin en arrière.
Et quand t'avais de quoi dire à un ami d'école, ben, tu disais, man, je saute sur mon bicycle, puis je m'en vais à l'autre bout de la ville, m'envoie parler.
C'est ça, exactement.
C'est ça.
Je reviens demain.
Mais les jeunes qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui sont plus isolés de leur père. Et ça peut même entraîner de graves problèmes, selon cette étude-là. Aurais-tu cru ça, toi? Ben, plus qu'on en parle...
Ben, oui, c'est ça.
Ils sont nés dans une génération où ils ont un téléphone cellulaire pratiquement dans les mains en naissant.
C'est ça.
Et même si c'est pas eux autres mêmes, les parents prennent des photos, ils sont à peine dans le berceau, là, ils sont à peine naissants, puis déjà, on tapisse nos réseaux sociaux avec leurs photos.
Ah oui.
Ça fait qu'ils sont omniprésents déjà dès leur naissance ou à toute fin utile sur les médias sociaux. Alors, le professeur en question dit que les médias sociaux, les jeux vidéo, sont profondément intégrés à la culture des jeunes.
Oui.
Et c'est pas que de simples divertissements comme nous autres, on le pense.
C'est ça.
Tu sais, nous autres, on dit, Internet, ils s'amusent là-dessus.
Ben oui.
Non, mais c'est pas juste ça. C'est de cette façon-là dont ils socialisent, ça forge leur identité, ça fournit un canal de soutien social. Et là où le bas blesse, c'est particulièrement dans le l'Amérique rurale, dans les milieux ruraux, mm-hmm. parce que là-bas, ils sont pas tout à fait déconnectés, là, on s'entend, là, mais l'Internet, ben, c'est pas c'est comme ça, d'habiter à Toronto, à Edmonton ou encore à Montréal.
Ouais.
S'entend? Les infrastructures de la large bande ne sont pas nécessairement là. Et quand ils l'ont pas à la maison, même des fois à l'école, c'est difficile même d'avoir accès à l'Internet.
Ouais.
Parce que ils sont obligés de se partager les postes informatiques, sont quand même un peu surveillés et tout ça. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les adolescents qui ont faible accès à Internet à la maison, et les adolescents dont les parents exercent une, disons, une grande surveillance de leur activité mm-hmm. sur le web ont généralement une estime d'eux-mêmes très, très inférieure à ceux qui passent ou enfin qui ont facilement accès à Internet. Et tu sais quoi? On s'est aperçu que même quand ils sont de grands, grands, grands consommateurs d'Internet, quand ils passent ce que nous autres on qualifierait de trop de temps devant les écrans, même eux autres ont une meilleure estime d'eux-mêmes, même s'ils n'ont pas tellement nécessairement de contact avec les autres, ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes que les jeunes qui n'ont pas accès à Internet.
Hmm.
Parce qu'ils se comparent pas, ces jeunes-là. Parce
ouais, c'est ça.
Ils sont pas capables de socialiser, ils ont moins de rapport avec leur, entre guillemets, congénère.
Ouais.
Alors, c'est un peu la conclusion à laquelle on en est arrivé. Parce que les médias numériques, on le disait tantôt, sont omniprésents dans leur existence. Bref, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est pas tant d'avoir accès à Internet ou de d'être dans les médias sociaux, mais le problème, c'est le temps que tu passes là-dessus.
C'est de le gérer, oui.
C'est de le gérer. Ce qu'on recommande, le professeur dit, écoutez, les médias sociaux, c'est pas anodin, là. Ça veut pas, je suis pas en train de dire que, c'est magique, les médias sociaux, passez du temps dans les médias sociaux,
ouais,
empêchez pas vos enfants d'aller sur Internet. Pour ça, t'es en train de vous dire, là. Je sais qu'il y a de l'intimidation dans les médias sociaux.
Oui.
On le sait qu'il y a des jeunes qui voient des affaires là-dedans qu'ils devraient pas voir nécessairement.
Oui.
Il y a des partages de photos d'affaires là-même qu'ils devraient pas entrer dans les mains d'un adolescent. Mais, ce que lui recommande, c'est, plutôt que de totalement les déconnecter, aidez-les à avoir accès à Internet, parler avec eux autres, comment je dirais ça, intéressez-vous à ce qu'ils font sur Internet.
Ça, c'est important.
S'ils sont en train de naviguer sur Internet, ben, vous pouvez dire, écoute, je te fais confiance, là.
C'est ça.
On peut-tu garder la porte de ta chambre ouverte pour que de temps en temps, je puisse venir faire un tour, jaser avec toi, si tu tombes sur des affaires qui sont pas nécessairement catholiques, pour qu'on puisse en discuter
c'est
tout ça.
Ça.
Et ce qu'il dit, c'est que plutôt que d'exercer un contrôle très, 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 très strict ou de leur couper l'accès à Internet, intéressez-vous donc à ce que font vos enfants, puis balisez-les, passez du temps avec eux, et de cette façon-là...
Puis en parler. En parler avec eux autres.
En parler, c'est toujours la meilleure chose à faire.
C'est quoi que tu vois sur Internet, là?
Qu'est-ce que tu fais sur Internet?
Ouais. C'est quoi que tu vois, là?
Je jase avec un tel, puis on chatte, puis tout ça. C'est peut-être mieux qu'ils vous disent ça que de les couper totalement de ça, puis que finalement, ils aient à toute fin utile presque pas de socialisation, qu'ils deviennent un peu les moutons noirs de leur gang.
Ben oui.
Parce que quand ils s'en vont à l'école, par exemple, puis ils commencent à jaser avec des copains d'école, puis qu'ils disent, as-tu vu telle affaire sur Internet, puis t'as-tu fait telle affaire,
non.
Puis tu jasais?
Non.
Puis là, non.
Ben, c'est ça.
Ben, là, il est plus...
On vient de te tasser.
Voilà. Sais-tu une chose, c'est que... Déjà un premier quart d'heure de passé.
Un premier, oui.
Dans un instant, on va parler avec Mélanie Tremblay.
Tremblay, oui.
De Franco-Presse.
Oui.
Personnalité.
Les personnalités de l'année.
Personnalité francophone.
Fun.
De l'année.
Oui.
Alors, on vient
ça
dans
va être intéressant.
Ça va être intéressant, certain. On reste là et on vient dans un instant.
Cette émission peut contenir des infos.
Le 4 janvier dernier, alors qu'on était de retour des vacances du temps des fêtes.
Oui.
Pour une huitième édition, il y a un organe de presse qu'on appelle Franco-Presse.
Allô?
Salut. Organe vital dans la francophonie canadienne.
C'est la première fois qu'on me traite d'organe, mais c'est correct.
Non, mais c'est un organe vital quand même.
Non, on t'a traité de pas mal de choses à l'émission.
On m'a pas traité de ragoût aussi récemment.
Oui, c'était pas tradition. Tradition. Attention, ne faites pas dire des affaires que j'ai pas dites, s'il vous plaît.
Oui.
Alors, non, mais l'organe de presse, Franco-Presse, ça se dit ça?
Organe de presse.
C'est un organe vital dans la francophonie canadienne. Et ils ont encore accompli quelque chose que je dirais presque aussi vital, c'était de dresser une liste, une espèce de palmarès des personnalités qui ont été les plus influentes de la francophonie canadienne au cours de la dernière année.
Mais Simon, moi, quand j'ai reçu la liste de notre invité, j'ai remarqué que nos photos n'y étaient pas.
je me considère pas nécessairement comme influent, mais les gens qui sont là-dedans, par exemple, il y en a plusieurs d'entre eux qu'on connaît et d'autres qu'on connaît moins. Mélanie Tremblay, rédactrice en chef de Franco-Presse. C'est de toi, c'est de ta
alias,
gang.
Alias oui. L'organe.
Ouais, c'est
oui,
c'est ça.
Alias.
Oui, Franco-Presse, ben, le palmarès, c'est le bébé de Franco-Presse. C'était notre 8e édition cette année. Puis ce qu'on veut faire toujours chaque année avec le palmarès, c'est qu'on veut démontrer qu'il y a une vitalité francophone. Mm-hmm. Puis c'est pas obligé d'être une vitalité qui rayonne à l'échelle nationale nécessairement. Mm-hmm. Il y a des gens qui font des petites choses dans le cadre de leur quotidien qui ont un peu, on va appeler ça peut-être l'effet papillon, qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand. Oui. Et là, ben, je dis ça en pensant à Eliza Brosso, qui se retrouve dans notre palmarès. Eliza Brosso, oui. C'est la mairesse de Bonnyville en Alberta, une francophone. Puis elle, depuis qu'elle est dans politique municipale, elle milite pour le bilinguisme comme un attrait économique. Et là, elle est en train de convaincre les associations municipales, même là où on retrouve que des anglophones dans plusieurs municipalités de l'Alberta, elle est en train de convaincre les gens du pouvoir du bilinguisme comme moteur économique. Mmh. Alors, c'est le genre de personne que on a reçu sa candidature au palmarès. Hein? C'est pas une sélection qu'on fait là, absolument au hasard.
Okay.
On reçoit sa candidature. Je ne connaissais pas Eliza Brosso, mais oh, mais quelle découverte! Et
ben
c'est
oui.
quelqu'un qui fait des actions dans son patelin de Bonnyville, mais qui a un impact éventuellement sur ben, tout ce qui se passe en Alberta, ou du moins sur la vitalité de la francophonie en Alberta.
Ouais.
Alors, c'est ça qu'on veut faire avec le palmarès. Il y a des gens qui ont des impacts à l'échelle nationale, ceux dont on entend parler souvent, mais il y a des petites découvertes aussi qu'on fait dans notre palmarès.
Ah, j'ai trouvé la liste très intéressante. Évidemment, Lisa Leblanc, pour moi, c'est venu me chercher là, parce que bon, j'adore la musique, j'adore Lisa, et puis Lisa est partie avec une de nos stations.
Ah oui, c'est ça.
Oui,
ouais,
hein?
Ouais, ouais. Je me demandais, j'ai dit, pourquoi il y a un coup de cœur comme ça? J'ai dit, t'es pas casé, toi? C'est ce que je me disais. Non, mais
oui,
c'est
là, mais
Lisa Leblanc. Mais c'est vrai, hein, t'as bien raison, c'est que c'est en grande partie grâce aux radios communautaires.
C'est ça.
Puis, c'est quelqu'un qui est capable de démontrer, moi, j'aime faire de la musique. J'aime faire de la musique dans ma langue, et pas juste le français. Dans son cas, c'est le chiac.
C'est ça.
Et de montrer qu'il est capable d'avoir un rayonnement à l'échelle internationale, parce que Lisa Leblanc tourne en Europe aussi, tourne partout au Canada. Il y a même une lauréate du palmarès qui m'a envoyé un courriel. Je même croire que je me retrouve au même palmarès que Lisa Leblanc. Donc, c'est quand on... Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit... Ben, dis-moi pas que Lisa Leblanc est une personnalité influente. Ben oui, de la perspective du musicien qui tente de percer le cheminement de Lisa Leblanc, oui, c'est inspirant parce qu'on voit que c'est des possibilités, même quand on vient de, je pense qu'elle vient de Rosaireville au Nouveau-Brunswick, même quand on vient de Rosaireville, on peut devenir une star internationale.
Ouais, et pas nécessairement pour les gens qui trempent dans le domaine de la musique, là, mais pour quiconque, par exemple, habite l'Acadie, de se dire, ben, sais-tu, même si j'ai une langue ou j'ai un parler qui est pas nécessairement sablé, standard, passé au papier sablé, comme par exemple le grand français international ou tout ça, il y a moyen de faire, de rayonner, d'avoir un talent qui sort des frontières, justement, du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie.
Et c'est exactement la même chose aussi avec Jonathan David, l'attaquant de l'équipe du Canada au soccer. Jeune joueur de soccer de 22 ans, franco-ontarien de la région d'Ottawa, qui joue maintenant pour un club en France et qui... Les clubs en Europe sont prêts à payer très cher pour Jonathan David. Mais on s'imagine le jeune joueur de soccer franco-ontarien qui adore son sport et qui voit quelqu'un qui réussit comme Jonathan David et qui se dit, ben peut-être qu'un jour, cette personne-là devient un modèle. Peut-être qu'un jour, ce sera mon tour et je pourrai accéder à des niveaux supérieurs. Donc, je trouve qu'il y a cette valorisation-là aussi qu'on essaie de transmettre dans le palmarès.
Tu as dit tantôt, les noms sont pas tirés d'un chapeau comme ça. Là. Je veux dire, c'est soumis de quelle façon? Qui soumet des noms?
Les candidatures, on sollicite à chaque année les journalistes, en fait. Donc, les journalistes des journaux membres de Réseau Point Presse, les journalistes animateurs collaborateurs des stations de radio communautaires de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Je pense que vous les connaissez.
Un petit peu.
Oui. On sollicite aussi les journalistes de ONFR+, qui est un média francophone bien ancré dans son milieu, qui est partenaire du palmarès. Donc, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on demande à des journalistes de le faire? parce que ce sont des gens qui sont en contact quotidiennement ou chaque semaine avec les francophones sur le terrain. C'est ça leur métier. Ils les voient, ces gens-là, au quotidien. Ils les voient passer dans leur page. Mais c'est pas parce que l'article est publié, je sais pas, dans l'eau vive en Saskatchewan, que les gens au Yukon ou encore en Acadie sont au courant de l'existence de cette personne-là. Alors, en recueillant les candidatures d'un peu partout, ben, quand le jury se penche sur le palmarès, ben là, après ça, on est en mesure de faire connaître ces gens-là à l'échelle nationale.
Pis c'est fun, tu sais, parce que Mme Brosseau, on l'aurait jamais su, là.
Mais non.
Pourtant, elle fait un travail incroyable pour la francophonie, mais sans le palmarès, on ne l'aurait jamais su.
Exactement. Donc, c'est un peu la mission que se donne le palmarès. Puis aussi, ben, de reconnaître le travail de longue date. Hein. Ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose spécifiquement pendant l'année.
Okay.
Parfois, il vient un temps où on dit, je pense que c'est le temps de reconnaître le travail de cette personne-là. Mmh. C'est un peu ce qu'on a fait avec Michel Picard, justement, d'Unique FM. Ça fait 50 ans qu'il est dans le milieu des médias. Passé plusieurs années à Radio-Canada, maintenant dans le circuit des radios communautaires. Mais pour lui, la francophonie canadienne, c'est même pas une question.
C'est
là, ça se présente et ça vient naturellement.
C'est son quotidien.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé au palmarès cette année.
Je veux pas qu'on fasse toute la nomenclature des gens parce que je veux pas non plus éviter aux gens d'aller voir la liste.
Franco-presse.ca.
Tu sais, je veux dire, c'est la raison pour laquelle on t'a en studio. Il y a une chose sur laquelle je veux revenir qu'on avait effleuré avant les fêtes quand t'étais venu nous parler un petit peu. Que tu étais venu nous annoncer que ça s'en venait, ce palmarès-là. Il y a une nouveauté cette année, il y a une présidence d'honneur. La jeune Marguerite Tolgiesi, qui préside la Fédération canadienne, ou en fait la Fédération de la jeunesse canadienne-française, devrait-on dire. Moi, la question qui a piqué un peu ma curiosité, mais c'était quoi le but au fait d'avoir une présidence d'honneur comme ça, hein?
C'était de sortir un peu, bon, on est beaucoup des représentants des médias, puis on a notre esprit de penser, notre façon de penser, puis c'était la façon d'accueillir quelqu'un qui allait nous faire penser en dehors de la boîte, okay. Finalement. Un peu nous challenger sur, tu sais, comme, avez-vous pensé à ça? Et ce qui est intéressant avec Marguerite, ben, c'est que, bon, forcément, les membres du jury, ce sont des gens d'une certaine génération. Et c'est ce qui est intéressant cette année, c'était cette espèce de souffle de jeunesse, mm-hmm. parce que parfois, les lauréats sont choisis à l'unanimité. Mais parfois, on se dit, qu'est-ce qu'on dit à propos de cette personne-là? Parce qu'on peut pas écrire une page pour chaque lauréat. Et avec la vision de la présidente de la JCF, avec la vision de Marguerite, ça nous permettait justement de consolider notre présentation, notre texte. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Tu sais, ça vient pas juste du cœur, ça vient aussi de d'autres éléments qui sont venus confirmer le travail de cette personne-là. Puis, moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que ils nous aident à élargir nos horizons. Puis, j'aime travailler aussi avec quelqu'un qui va nous faire sortir de notre cadre habituellement. C'est pour ça qu'on a choisi une première présidence d'honneur et on va poursuivre la tradition. L'an prochain, on va se tourner vers un autre organisme là pour nous accompagner dans ce palmarès.
T'sais, on a besoin d'avoir un point de vue différent qui va nous challenger un peu là.
Et il nous reste
Marguerite est bonne.
Ouais, il nous reste à peu près 2 minutes. Comme je l'ai dit tantôt, je veux que les gens aient voir sur francopresse.ca pour constater de leurs propres yeux, pour lire qui sont les autres lauréats ou les autres personnalités francophones de l'année. Mais peut-être en nommer une autre personne parmi cette liste-là, parce qu'il y en a quand même une dizaine. On brûlera pas le punch en mentionnant une autre. Là, je veux dire.
Je pense qu'une personne incontournable, c'est la juge Michelle Aubin-Sawin, juge à la Cour suprême du Canada, une franco-ontarienne du nord de l'Ontario, Hanmer, près de Sudbury, et qui est aussi Abénakis de la Première Nation d'Odanak, puis qui vient démontrer encore une fois que on est capable d'aller loin quand on y croit. Moi, j'ai dit, quand je veux être grande, je veux être comme Michelle Aubin-Sawin. Hein, c'est quelqu'un qui s'est fait dire dans sa vie, mais non, tu pourras pas.
Ouais.
Avoir une carrière en droit. T'es une franco-ontarienne, t'es une autochtone, il y a aucune chance pour toi. Et regardez où cette femme-là est rendue, elle est en train d'inspirer des jeunes, elle fait beaucoup de travail d'éducation auprès des jeunes, et elle est en train de les inspirer pour leur dire, ben, sky's the limit, excusez l'expression, mais vous pouvez rêver, et vous pouvez réaliser vos rêves aussi, parce que pour elle, c'était un rêve, et elle l'a réalisé cette année.
Mais tu sais, il y a un temps où ça n'aurait pas marché son affaire. Tu sais, dans le sens où elle n'aurait pas pu avancer. Mais maintenant, avec l'ouverture un peu plus grande des gens, ben là, oui, effectivement, tu sais.
Oui, mais elle a travaillé aussi beaucoup pour ça. Elle continue à contribuer à faire tomber ces barrières-là, à pouvoir justement maintenir cette ouverture-là qu'on peut avoir sur l'autre. Donc, Michelle Obonsawin, je pense que ça vaut la peine de le mentionner.
Ben, allez faire un tour, hein. C'est sorti il y a quelques jours à peine. C'est sur le site francopresse.ca. C'est le palmarès des personnalités francophones de l'année à travers la francophonie canadienne en 2022. Vous allez peut-être avoir des surprises. Il y en a peut-être qui vont peut-être moins vous surprendre, mais chose est certaine, c'est que toutes les personnes qui sont là dans ce palmarès-là, elles ont toutes une place qui est méritée.
Absolument, absolument.
Mélanie, merci beaucoup. On se retrouvera un autre tantôt pour un autre sujet à propos de Franco-Presse.
À une prochaine.
Salut, merci.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Dans notre prochain quart d'heure, à peut contenir des infos, on va parler de parcs.
De parcs.
Pas de parc à chiens.
Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. J'ai pensé à la même affaire.
Pas de parc de balles.
Non, non.
Mais de Parc Canada.
Oh, de Parc Canada. OK.
Parc Canada.
Les parcs nationaux.
Les entre autres choses.
Oui.
Tu sais que le Canada compte, tenez-vous bien, 37 parcs nationaux.
Ah oui?
10 réserves de parcs nationaux. 1004 lieux historiques nationaux au Canada qui sont répartis dans les provinces et les territoires. Il y en a 171 d'entre eux qui sont administrés par Parc Canada.
Okay.
Et on a en tout et pour tout 5 aires marines nationales de conservation.
Hmm. Mais je pensais pas qu'on avait autant de parcs nationaux.
On a beaucoup, hein?
Oui.
Et j'ai lu sur le site de Parc Canada, vous pouvez visiter le site internet à Parc avec un S, parcs.canada.ca. J'ai lu là, entre autres choses, qu'à travers le monde, c'est au Canada où il y a le plus grand nombre d'espaces préservés, de parcs nationaux de cette façon-là.
Okay.
Je me rappelle plus exactement du nombre de kilomètres carrés à travers le pays, ce que ça représente en tout et pour tout. Là, faudrait que je retourne voir sur le site internet, mais c'est une affaire impressionnante.
Ouais.
Genre 39 de ces espaces-là qui sont répartis un petit peu partout à travers le monde. Et le Canada, je pense qu'on en a quelque chose comme 31 de ces 39-là, là, grands parcs ou grands espaces qui sont vraiment des aires, on va dire, protégés parce qu'il y a des, je sais pas moi, des espèces qui sont en danger,
exact.
Des trucs de genre ça. Ça reste quand même assez impressionnant.
Oui, ça l'est.
Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de...
De Parc Canada?
Entre autres choses, de cash.
De cash, oui. De cash qui va avec les parcs.
Parce que il y a eu récemment une espèce d'ajustement de prix, d'après ce que j'ai compris.
Oui, depuis le 1er janvier 2023, Parc Canada qui a ajusté les prix de certains de ses services, mais pas nécessairement l'entrée, mettons, dans un parc, mais tous les services à valeur ajoutée qui sont offerts, ben on a ajusté certains prix sur ces services-là. Il y a beaucoup de gens qui profitent de nos parcs. Et c'est super intéressant aussi, je veux dire, d'aller dans un parc et puis, tu sais, de suivre un guide et qui va tout expliquer. C'est drôlement plus intéressant que juste marcher toi-même puis te poser un paquet de questions.
On a une entrevue à vous faire entendre dans quelques instants qui a été réalisée par un collègue.
Oui, Daniel Aucoin de CKJM, de Radio CKJM à Chétiquan.
Qui s'est entretenu avec une dame, justement, de Parc Canada.
Oui, Madame Julie Cossette.
Alors, on va écouter ça et on va revenir un petit peu sur l'entrevue par la suite avec quelques compléments d'information.
Julie Cossette, gestionnaire de l'expérience du visiteur par intérim au Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Bonjour et bonne année.
Bonjour, Daniel. Bonne année à toi aussi.
Julie, on a appris qu'à partir de ce mois ici, janvier 2023, Parc Canada qui ajuste les prix de certains services offerts par les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. En ce qui concerne le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, les changements aux frais, ça touche quels services?
Oui, donc ça, le rajustement des droits, c'est sur certains services, comme tu le mentionnais. Et donc, ce que ça veut dire au Parc des Hauteurs du Cap-Breton, c'est surtout les activités d'interprétation, comme les visites guidées, et puis l'utilisation de l'arrière-pays, donc le camping qu'on retrouve à Lance Fishing, par exemple. Alors, ce sont là où les rajustements de prix ont lieu cette année. Les rajustements de prix, que je veux dire, sont toujours pour offrir des expériences de qualité et très abordables. Et on a ces ajustements de prix, ça inclut justement juste ces activités-là qu'on dit de valeur ajoutée. Ça ne touche en aucun cas cette année les droits d'entrée. Donc, les droits d'entrée au parc restent les mêmes que l'an passé, ainsi que les droits de camping et d'hébergement dans nos terrains de camping d'avant-pays, nos terrains de camping principaux. Ce sont encore les mêmes tarifs pour 2023.
À Parc Canada, est-ce que les tarifs sont revisés assez souvent?
Oui, en fait, à Parc Canada, il y a eu en 2019 une consultation par rapport au sort ajustement des prix et aussi en vertu d'une loi sur les frais de service qui fait que tous les ministères fédéraux, y compris Parc Canada, sont maintenant tenus de rajuster automatiquement les droits de service en fonction de l'inflation. Et Parc Canada, donc, ça se fait à tous les deux ans. Donc, depuis 2020, on a eu des augmentations au niveau des droits d'entrée du parc, des droits de camping, et ça s'est révisité à tous les deux ans. Donc, ça a eu lieu aussi en 2022, et la prochaine augmentation aura lieu en 2024, donc en janvier prochain pour ces droits-là. Cette année, janvier 2023, c'était spécifiquement pour les services à valeur ajoutée, donc les visites guidées, par exemple, ou comme je disais, les activités en arrière-pays. Et ces rajustements-là sont basés sur la consultation qu'il y avait eu en 2019, donc avant que le Parc Canada réaugmente ses prix. Les prix avaient été gelés à Parc Canada depuis 2008, en fait. Et en 2013, il y avait eu des démarches peut-être pour faire un rajustement, mais les rajustements n'avaient pas eu lieu. Alors, ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'ajustement sur ces prix-là de services de valeur ajoutée. Alors, la consultation, en fait, par la consultation qui avait été une consultation publique auprès d'intervenants, la majorité des personnes interrogées étaient favorables à l'augmentation des prix pour mieux refléter les tarifs du marché d'aujourd'hui aussi, puis pouvoir en même temps offrir des services de meilleure qualité, mais tout en restant quand même là, toujours abordable. Ça, c'est une priorité au niveau du gouvernement d'avoir des prix qui sont accessibles le plus possible à l'ensemble de la population. Alors, il y avait eu, on voulait refléter le marché parce qu'on voulait pas non plus aussi faire trop de concurrence déloyale avec le marché public, le secteur de l'industrie touristique. On va avoir des prix comme similaires et non pas trop à la baisse non plus comparé au reste. Alors, c'est tout ça qui a été pris en considération lors de le rajustement de ces prix-là pour pouvoir avoir une façon de mieux investir dans le parc, parce que ces revenus-là qu'on reçoit par les droits de service, entre autres, sont réinvestis dans les opérations du parc et dans les activités de conservation aussi du parc national.
Alors, tu le mentionnes, comment importantes que sont les recettes générées par les droits aux utilisateurs dans le budget d'opération de Parc Canada?
Dans le budget d'opération de Parc Canada, dans le fond, l'agence Parc Canada est financée par une combinaison de crédits budgétaires annuels là, qui provient entre autres des impôts, mais aussi de droits de service. Et à peu près 25 % des opérations sont couvertes par les droits de service. Alors, 25 % du budget de fonctionnement de Parc Canada vient des droits d'entrée, de camping et autres. Et c'est une façon, donc, en quelque part, pour être équitable avec l'ensemble de la population canadienne, parce que, en fait, on ne veut pas que l'ensemble des fonds publics servent pour investir dans des activités que seulement les visiteurs, entre autres, puissent profiter. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement là-dedans, mais dans le fond, on voulait avoir moins de fonds publics qui devraient être investis pour soutenir des services qui ont un avantage pour les visiteurs. Alors, il y a une partie qui vient des fonds publics, mais une partie, donc, si un visiteur veut profiter d'une belle expérience dans nos parcs, ben doit débourser un certain montant, comme je disais, toujours abordable pour pouvoir profiter de ce service-là puis réinvestir dans cet endroit qu'il a pu visiter.
Est-ce que cette année 2023, l'entrée demeure gratuite à tous les endroits administrés par Parc Canada pour les jeunes de 17 ans et moins encore?
Oui, exactement. Merci de faire un rappel là-dessus. L'entrée reste toujours gratuite pour les jeunes âgés de 17 ans et moins. Alors, c'est une façon de permettre aux jeunes et à leurs familles de profiter des expériences de plein air qu'on offre dans le parc et d'avoir d'en apprendre davantage sur l'environnement et le patrimoine aussi de nos diverses régions. Alors oui, ça reste toujours le cas pour les prochaines années. Les 17 ans et moins ont l'entrée gratuite. Et on a également des programmes pour les nouveaux Canadiens. Alors les nouveaux Canadiens ont aussi accès à une entrée gratuite via une application qu'ils ont qui leur sont offertes lorsqu'ils sont citoyens permanents au Canada. Et on a également l'entrée gratuite pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Alors, eux aussi peuvent recevoir une passe d'entrée spécifique pour leur donner accès aux droits. Et tout ça, c'est dans le but de diversifier la clientèle qu'on a ici à Parc Canada, avoir plus les jeunes et les nouveaux immigrants profiter des endroits de Parc Canada.
En terminant, Julie, peut-être nous parler un peu de la carte d'entrée découverte qui est acceptée à l'année?
La carte d'entrée découverte de Parc Canada donne accès à l'ensemble des endroits de Parc Canada à travers le pays, autant les parcs nationaux que les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Et oui, ce sont des cartes qui sont bonnes pour une année entière à partir de la date d'achat de la carte d'entrée. Et la plupart des endroits de Parc Canada, dont le Parc national des hauteurs du Cap-Breton, offrent aussi des passes saisonnières spécifiques juste pour le parc en tant que tel. Alors, on peut avoir soit une passe pour un endroit particulier ou la passe découverte qui donne accès à l'ensemble des endroits de Parc Canada.
Alors, Julie Cossette, gestionnaire de l'expérience du visiteur par intérim au Parc national des hauteurs du Cap-Breton, merci de nous avoir parlé de l'ajustement des prix de certains services offerts par Parc Canada. Merci beaucoup.
Et ça me fait plaisir, puis on souhaite vous voir cette année. Au revoir.
Alors, merci à Daniel Aucoin.
Oui, c'était super intéressant.
Ça parle évidemment du Parc national des Hautes-Terres,
oui.
Les Highlands, là, en Nouvelle-Écosse.
Au Cap-Breton.
Au Cap-Breton, qu'on a déjà eu l'occasion de visiter. Moi, j'étais là.
Moi aussi, je suis...
spectaculaire, là, oui, je veux dire, la vue quand t'es en haut. Là,
ça n'a pas d'allure. Hein.
Hallucinant de regarder.
C'est tellement beau.
À l'horizon et tout ça.
Oui.
Et ce qu'il faut que les gens comprennent bien, là, au terme de cette entrevue-là, c'est que ça, c'est partout à travers le pays. Là.
C'est ça, exactement. Oui, ça touche tout ce qui est Parc Canada.
C'est ça. Et ce qu'il faut aussi bien saisir de cette entrevue-là, c'est, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que on n'a pas augmenté nécessairement tout. Là. C'est-à-dire
le coût d'entrée
n'a pas augmenté à proprement parler.
C'est ça. Ça reste pareil.
C'est vraiment les services à valeur
ajoutée. C'est ça.
C'est quelque chose qui va vous apporter une petite expérience supplémentaire.
Exactement.
C'est le principe de l'utilisateur-payeur, finalement.
Oui, oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, ça faisait des années que ça n'avait pas été touché, les prix. Là.
C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, vous allez vous présenter à la porte d'un parc national pour entrer, ça ne vous coûtera pas nécessairement plus cher.
Non.
Mais si vous avez des services comme, par exemple, d'un guide.
C'est
ça. Si vous allez dans un camping puis que vous avez recours aux douches parce que, hey, tu peux aller faire du camping sans te laver pendant 3 jours. Mais si tu veux...
Ça
se fait.
Oui.
C'est déjà fait.
Oui.
Mais si tu veux accéder à une valeur ajoutée, c'est-à-dire avoir accès aux douches, par exemple, c'est le genre d'affaires peut-être qui va être augmenté ici et là à travers les parcs nationaux et les sites historiques, par exemple, de
Parc Canada. Mais on parle pas de grosses augmentations.
Non. Ils suivent généralement le coût de la vie et tout
c'est ça.
Là. Puis c'est ce qu'on a bien compris.
Oui.
Alors, on arrive maintenant à notre dernier quart d'heure de l'émission.
Effectivement.
On prend une petite pause pour prendre un verre d'eau puis prendre une respiration. Puis on revient dans un instant. Restez avec nous autres. Un peu contenir des infos.
Un peu contenir des infos.
Simon, il y a une façon qu'on pourrait trouver pour sauver notre planète. Tu sais, les emballages de plastique, là.
Tu parles des pellicules plastiques, les trucs du genre. Ouais.
Si on pouvait manger.
manger du plastique?
Oui! Ouais.
Je suis pas sûr.
Non,
je suis pas sûr. À moins que tu aies vraiment quelque chose de...
À moins que vraiment faim, là.
Ouais, d'abord, faudrait que j'aie vraiment faim, premièrement.
Oui.
Puis même là, il faudrait vraiment que ça soit comestible, là. Tu sais, je veux dire, faudrait que ça... Parce que j'ai déjà vu des affaires, à un moment donné, ils vendaient des espèces de trucs de pâte de pas de sucre, là, je sais pas trop, là.
Oui, je me souviens de ça.
Tu mangeais, là, comme ça fondait dans la bouche, puis ça laissait pas un goût nécessaire.
C'était pas tellement bon, hein.
Ouais,
ben il y a une petite start-up en Angleterre. La compagnie s'appelle Notpla, qui a commencé dans une petite cuisine à Londres, et ils font des emballages comestibles.
Comme un plastique qu'on peut manger pour vrai, là?
avec des algues.
Avec, oh!
Donc, ben oui, c'est ça. C'est une alternative au plastique pour sauver notre planète.
Ah, ben c'est quelque chose qui, à prime abord, les algues se consomment. Je veux dire, nous, ici, en Amérique du Nord, on n'est pas nécessairement des outre-mangeurs anonymes d'algues marines.
Non.
Mais, je sais qu'en Asie, particulièrement, ben quand tu vas manger...
Une bonne salade d'algues, par contre, là, c'est relativement bon, là.
Peut-être.
OK, c'est correct.
Okay. Mais quand tu manges des sushis, c'est des algues qui mettent autour des sushis.
C'est ça. Donc, ça se mange.
Ah, là, peut-être. T'es peut-être en train de me gagner, là, peut-être.
Ouais, Pierre Passillier et Rodrigo Garcia Gonzalez qui ont parti cette petite compagnie-là alors qu'ils étaient au Collège des Arts de Londres. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'est à créer des emballages non nocifs pour l'environnement. Et leur emballage de bulle, c'est à peu près de la taille d'une tomate cerise, là.
Ah, OK. Ouais, oui, il voit à peu près le format. Ouais, un pouce à peu près.
Oui, on a une belle grosse tomate cerise. Okay. Là, c'est à peu près gros comme ça. C'est créé à partir d'extraits d'algues selon un processus, bien sûr, qu'ils ont gardé secret.
Ben, tu m'en diras tant.
Tu peux y mettre un paquet de sortes de liquides. C'est ça qui est le fun. Tu peux mettre de l'eau, des cocktails.
Oh!
IA. Que tu peux utiliser dans des... genre dans des festivals, des choses comme ça.
Ouais.
Puis même des boissons énergétiques. Fait que tu pourrais, en principe, donner ça à des coureurs, mettons, dans un marathon.
Oui.
Fait que tu leur donnes juste une petite capsule. Envoie dans la bouche, puis...
Yes. Ah, ils sont en même temps nourris à toute fin utile par les algues et ils sont désaltérés par le liquide qui est à l'intérieur.
C'est à peu près ça.
Hey, c'est bon, ça.
C'est à peu près ça. Et la texture s'apparente à un bonbon gélatineux.
Ben, c'est quand même pas pire. Je veux dire, c'est pas comme croquer dans une noix.
Non.
Là,
le seul problème, moi, c'est le bonbon gélatineux, ça me colle d'un an. Je trouve ça un peu tannant. S'il donne le cure-dent qui va avec, c'est pas pire.
Si tu fais là, je suis en train de décoller un contenant que j'ai mangé.
<C'est ça. rire> Ils ont développé un revêtement biodégradable naturellement pour les boîtes de repas à emporter. Ça, là, c'est pas mangeable, là. Pas encore en tout cas,
okay.
Mais au moins, c'est biodégradable. Donc, ça va servir à protéger l'emballage de la graisse ou des aliments liquides. Fait que ces gens-là ont vraiment la bonne idée, là. On s'en va vraiment... à la bonne place.
Ben, on n'a pas le choix de toute façon parce qu'on le sait, même ici au Canada, depuis quelques semaines ou quelques mois, là, à peine. En fait, je dis des quelques mois, c'est quelques semaines, c'est tout récent. On n'a plus le droit de commercialiser certains produits faits de plastique à usage unique.
Ah oui.
Et l'industrie agroalimentaire devra, un jour ou l'autre, s'ils sont pas en train d'y travailler.
Oh, je suis sûr qu'ils travaillent.
Trouver des méthodes alternatives de préservation des aliments et de service des aliments, qui peuvent d'une part soit se recycler ou même encore mieux
biodégradable,
se composter par exemple.
Ouais, selon un récent rapport de l'OCDE, au rythme actuel, la quantité de déchets plastiques va tripler d'ici 2060.
Ouais.
Attache ta tuque, on est en hiver quand même.
Ouais.
À 1 milliard de tonnes par année. Puis tu sais que la majorité de ces plastiques-là se retrouvent après ça dans les océans, puis tout ça. On est en train de tellement scraper la planète. Mais moi, je trouve ça le fun parce que des gens comme ça qui travaillent là-dessus, oui, on va pas éliminer le plastique demain matin, là. Mais au moins, on s'en va dans la bonne direction.
Ben, il faut y aller vitesse grand V parce que, je vais dire une affaire, si on se donne pas des coupées dans le derrière pour aboutir justement à des solutions comme celle-là, qui sont réalistes, qui sont durables, qui sont exploitables, là, entre guillemets, parce que tu peux rêver, tu peux bien idéaliser que, moi, demain matin, je vais faire, une voiture qu'au bout d'une dizaine d'années d'utilisation, je vais pouvoir la laisser dans un champ, puis en l'espace d'un an, elle va complètement être compostée. Uh-huh. Je peux bien rêver, mais de là, de passer de l'idée à la réalité...
C'est ça.
Il y a comme un pas à franchir.
Parce que là, en ce moment, un modèle T, tu peux encore trouver ça dans les champs.
C'est exactement.
Puis, l'histoire avec les algues, là, ce qui est le fun, c'est que des algues, ça pousse super vite.
Ben oui. Fait que... plus. Merci, cher ami. Hey, mon ami.
Aimes-tu ça? Pas des patates. Aimes-tu ça les steaks? Aimes-tu ça la viande, mon ami?
Ah, moi, j'aime ça.
Oncle Tom, il y a quelque chose de pas pire pour toi.
Oncle Tom, il t'arrive avec la viande de synthèse. Tu sais, je l'ai dit dans toi au début de l'émission.
Ah, attends une minute, toi, là.
J'allais vous parler de viande.
Oui, oui. Ah, mais là, tu me parles pas de viande, là.
Non,
tu me parles de synthèse. C'est pas de la viande.
Attends une minute, là.
OK.
Je ne te parle pas non plus de galettes de pseudo-bœuf haché à la luzerne et au soya, des affaires
là,
de même.
Tu parles de la viande, là.
Je parle de viande de synthèse. Il y a de nouvelles entreprises, attention là, de nouvelles entreprises qui, depuis quelques années, essaient de créer des viandes synthétiques.
OK, oui.
J'ai rien contre la luzerne, le soya, le tofu, des affaires de même.
C'est bon pour la santé.
Les Beyond Meat et des trucs de genre. C'est pas ça l'idée.
Non.
Mais il y a un fait, c'est que l'être humain, depuis la nuit des temps, a mangé, a consommé des fibres alimentaires, pas des fibres, mais des aliments des animaux, là, si on veut. Là.
Ben oui.
Des muscles. Mm-hmm. Hein, parce que c'est ça la viande, c'est les muscles des animaux qu'on mange. Alors, écoute, en des temps immémoriaux, puis ben, on est des omnivores. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est ça.
Je veux croire là, qu'il y a, c'est, il y a très certainement moyen de vivre juste en mangeant, justement, avec un régime alimentaire de véganisme, là, comme on dit. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui est ça?
Ben, c'est ça.
Alors, là, il y a des compagnies. Puis l'affaire, c'est que l'exploitation de l'élevage des bêtes, du bétail, ça requiert beaucoup de ressources, du grain, de l'eau, de l'espace.
L'électricité.
Alors, voilà.
Name it.
Alors, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs entreprises maintenant, des start-up, qui se lancent dans la fabrication de viande. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça fait un peu?
Ça fait drôle à dire, de la fabrication de viande.
Ouais, c'est ça, les Frankenburger qu'on va dire.
Ouais.
Alors, une des plus connues...
Ça fait saucisse hot dog.
Ouais. Tu vas être étonné quand même. L'une des plus connues, c'est Super Meat. Elle a été fondée en 2015, mais il en existe de plus en plus.
Okay.
Il y a Moza Meat, Meat Tech, Beef Tech, New Age Meat. Nomme-en, là, il y en a des dizaines et des dizaines.
Okay.
Tu penses que c'est juste une utopie ou une vue de l'esprit? On va créer des viandes et tout ça. Non. Il y en a là des compagnies qui poussent. Et là, comme je te disais tantôt, là, c'est pas de la luzerne. On ne parle pas d'affaires de saucisses à base de plantes, de phalanges. Tu parles de viande qu'on fait littéralement pousser.
Oui.
Et qu'on imprime ensuite en trois dimensions.
OK, pousser, oui, je peux comprendre. Mais après ça, tu vas me l'imprimer.
C'est un peu capoté, là, j'avoue. Oui. Là. Mais ce qui est le plus weird, ce qui est le plus weird dans tout ça, c'est que ça existe. Je parle pas d'une affaire qui va arriver dans 4-5 ans.
Okay,
je parle d'une affaire qui existe
là.
Okay. Super Meat, dont je vous parlais tantôt, a même un restaurant qui s'appelle The Chicken. Il aurait pu se casser un peu plus dans des quelque chose d'un peu plus, mais en tout cas.
Anyway.
Ben, si tu veux fourguer du faux poulet, du poulet que t'as fait pousser au monde, t'es aussi bien de lui donner en rentrant sur la devanture du restaurant l'impression qu'ils vont manger du chicken, du poulet. Alors, c'est à Tel Aviv, en Israël, et les clients vont consommer sur place des produits de viande synthétique qui ont été fabriqués donc sur les lieux, dans un laboratoire qui est juste de l'autre côté d'une paroi vitrée.
OK.
C'est spécial.
Fait que tu vois ton poulet pousser, là.
C'est ça. On regarde une poitrine de poulet se faire fabriquer sur place.
OK.
Puis, sais-tu quoi? C'est à s'y méprendre. Quand tu regardes le look, quand tu mets le doigt dessus, la texture, tu goûtes tout, c'est pareil du poulet. Pareil comme du poulet. On l'imprime littéralement en trois dimensions, une couche à la fois, les produits qui ont la texture, l'apparence, le goût, mais sans produits animaliers, sauf des cellules.
Sauf l'origine. Là.
Voilà, l'origine. Ouais. Alors, ce que la compagnie fait, Super Meat, c'est qu'on commence par prélever des cellules du poulet et on va former ce qu'ils appellent, eux autres, la graine, littéralement « seed » en anglais, dont on va se servir pour faire ensuite mûrir des muscles, des graisses et d'autres tissus, comme de la viande, comme littéralement de la viande qui pousserait dans un petit bébé, là, un petit bébé veau, un petit bébé poulet qui grandit, tout ça. C'est la même affaire qu'on fait, là. Et ensuite, on place ça dans un fermentateur de viande. On va faire fermenter la viande avec la chaleur, l'oxygène, on va la nourrir et tout ça. Et puis les cellules vont se développer, puis on fait littéralement des morceaux de viande avec ça. Puis une fois que la viande est prête à être récoltée, on, tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'espèce de liquide nourricier qu'il y a pour garder juste la substance de viande. Et puis après ça, on va faire tout simplement des poitrines de viande, je pense à quoi, des burgers de poulet, par exemple, des croquettes de poulet, des trucs du genre. On met ça dans l'huile ou encore dans le four et on vous sert ça. C'est vrai, là, c'est rendu là, là. La compagnie s'appelle Super Meat. Allez faire un tour sur sur Internet, cherchez Super Meat The Chicken, le restaurant The Chicken dans Google. Vous allez voir, là, c'est là, là.
Il monte.
Il monte, là, c'est vrai, ça existe.
Ben,
ça fait que demain matin, on va peut-être remplir notre frigidaire, non pas avec des steaks et puis des galettes de poulet qui auront été élevées dans une basse-cour ou encore dans un étable.
Non.
Mais on va...
élevé dans un laboratoire. Ça va être
fraîchement élevé dans un laboratoire. Non, mais c'est, comme branding, on a peut-être trouvé mieux.
C'est
la fin de l'émission, mesdames, messieurs, de Peu contenir des infos.
Ça finit bien.
Ça finit bien. Ouais, ça finit sur une note un peu rigolote.
Là-dessus, je vais donner mon hamburger.
Un bon hamburger, ben, c'est ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition d'ici là. Salut, portez-vous bien.
Salut.